Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Karen Haddad qui nous parle de son nouveau roman Au vivant qui vient de paraître aux éditions Arléa. Bonsoir Karen.
Bonsoir Sandrine.
Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une première dans cette émission. Alors pour nos auditrices et nos auditeurs, quelques mots de présentation et vous pouvez m'interrompre si vous voulez ajouter des choses ou si je dis des bêtises. Vous êtes professeur en littérature comparée à l'Université de Nanterre. Vous êtes spécialiste de Proust, de la littérature russe et de l'écriture autobiographique. Vous avez d'ailleurs écrit plusieurs essais universitaires remarqués. L'enfant qui a failli se taire, essai sur l'écriture autobiographique en 2004. Roman du crime, littérature générale et comparée en 1998. L'illusion qui nous frappe, Proust et Dostoïevski. Une esthétique romanesque comparée en 1995 et en co-direction, Proust, l'étranger, en 2010. Et puis, vous êtes également romancière. Après le dernier voyage de Salomon Marcher aux éditions Arléa en 2022, vous publiez aujourd'hui votre deuxième roman, Au vivant, toujours aux éditions Arléa. Que raconte-t-il ? Ce récit sensible raconte l'histoire de Mathilde, fille de modestes juifs tunisiens exilés à Paris. Mathilde a été fascinée dans sa jeunesse par un couple d'amis français, Adriane et Laurent, qu'elle a épousé suite à la disparition de sa première épouse. Croyant pouvoir laisser derrière elle ses origines, elle mène une vie bâtie sur le reniement jusqu'à ce qu'une rencontre amoureuse la pousse à affronter son passé et à redonner voix à l'histoire de ses parents. Roman d'amour, d'exil et de mémoire, Au vivant est aussi une célébration de la vie, malgré tout, un retour à soi et aux siens qui fait écho à l'hébraïque l'Echaïm. Alors, on va le dire à plusieurs reprises, j'ai beaucoup aimé votre roman, j'en reçois beaucoup, mais votre écriture sensible, inspirée, avec beaucoup d'élégance, eh bien, donne envie de lire le livre en une traite. Et donc, la question qui s'impose, qu'est-ce qui vous a conduit, vous, qui êtes quand même professeure, enseignante et qui travaillez sur des essais, à franchir le pas et à écrire des romans ?
Ah, d'abord, merci pour cette présentation très agréable à écouter, évidemment. Alors, le pas, je l'ai franchi, on va dire, il y a une quinzaine d'années, dans la préparation de ce qui a été mon premier roman. Et tout simplement, j'avais cette envie depuis toujours. Donc, j'écrivais, et j'ai toujours écrit sous la forme d'essai, effectivement, qui était une autre forme d'écriture. Mais bon, je crois que vous êtes historienne et vous écrivez aussi. C'est pas tout à fait le même rapport. Et puis, est revenu le besoin de la fiction que j'avais un peu écarté parce que je travaillais... Ça me convenait. Et puis, parce que j'ai travaillé, comme vous l'avez rappelé, sur des auteurs un peu écrasants. Alors, c'est toujours un peu... intimidant de sauter le pas. Et donc, j'ai choisi effectivement le roman. Alors que vous l'avez rappelé, j'ai beaucoup travaillé sur l'autobiographie, l'écriture à la première personne. Et justement, j'avais envie de pratiquer le roman, le romanesque.
Votre premier livre, on l'a dit, c'était premier roman, Le dernier voyage de Salomon Marcher, qui était sans éléments autobiographiques. Ici, il y en a quand même un petit peu. Donc, Mathilde, votre héroïne, est-ce qu'elle s'est imposée facilement dans votre écriture? Est-ce qu'il y a un peu de vous, même si on sait que la fiction, eh bien, c'est de la fiction et le roman, c'est de la littérature? Est-ce que vous pouvez nous parler de ce personnage?
Alors, il s'est passé quelque chose... je dirais, d'assez courant, mais effectivement différent de la façon dont j'avais conçu le premier. C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment l'histoire de Mathilde avec ce trio, cette amitié amoureuse avec Adriane et Laurent, cette séduction, cette attirance qu'elle éprouve pour eux, pour leur vie, pour ce qu'ils représentent. On y reviendra peut-être. Et au fur et à mesure, je me suis dit qu'il fallait dire un peu d'où venait Mathilde et pourquoi elle tombait si facilement dans cette séduction ou plutôt ce qu'elle laissait derrière elle. Et donc là, pour le coup, je lui ai donné effectivement un peu, non pas de moi, mais un peu de mes parents, un peu de mon histoire, c'était un cadre et là, je dirais, l'histoire en particulier de mes parents est tellement en elle-même romanesque que comme le dit Claude Simon, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, à quoi bon inventer pour le coup. Et j'avais aussi besoin qu'on connaisse cette histoire. Voilà. Et donc Mathilde, au début, était, je dirais, elle était beaucoup plus dépourvue d'arrière-plan. Et j'ai eu besoin de mettre en place ce cadre. Et c'est devenu quelque chose d'un peu différent, puisqu'à ce moment-là, l'histoire de Mathilde, ça devenait justement la recherche, non pas la recherche de ses origines, mais la remontée vers ses origines.
Alors, je vais me permettre de lire l'incipit. Chez eux, les veillées funèbres ressemblaient toujours un peu à des fêtes d'anniversaire ou de mariage, ou de baptême, ou de communion, comme on le disait encore en une naïve imitation des termes catholiques. Du moins, à des fêtes telles que Mathilde en avait connues dans son enfance, à ceci près que les bouteilles de soda et les canapés commandés chez un traiteur avaient peu à peu remplacé les verres de sirop d'orgeat préparés d'avance, qui voisinaient jadis avec les assiettes de briques au thon et de fèves au cumin. C'est un travail de deuil, en quelque sorte, que vous avez fait. Cet ouvrage est peut-être cathartique, vous allez nous le dire dans un instant. C'était important de brosser ce tableau de ce judaïsme tunisien qui arrive à Paris.
Oui, bien sûr. Alors, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'au fond, il m'a semblé que la cruauté, on va dire, j'exagère peut-être, mais disons le reniement que représente dans un premier temps la trajectoire de Mathilde, qui va donc vers ce couple de Français qui représente vraiment la vie française qui l'a séduit. Cette cruauté, elle devait être compensée par justement ce qu'elle redécouvre à la mort de sa mère, et donc de faire sentir toute cette chaleur, toute cette nostalgie de ce qu'elle a connu, qui a pu être étouffant aussi, mais vers laquelle elle revient à ce moment-là. Bon, là aussi, évidemment, il y a des éléments autobiographiques, c'est-à-dire que quand on perd ses parents, on se rend compte aussi, enfin, il y a toujours beaucoup de témoignages, d'affection, d'amitié, etc. Et dans le cas de cette petite communauté juive tunisienne, moi qui me suis aussi un petit peu éloignée de mes origines dans mon itinéraire de départ, j'ai été frappée par ces manifestations, et j'ai voulu en rendre compte, oui.
Est-ce que c'est un moyen de vous rapprocher de vos origines tunisiennes, d'écrire ce roman ?
Oui, alors cela dit, je ne suis pas Mathilde, hein, mm-hmm. je pense que je ne me suis pas éloignée autant qu'elle, mais certainement c'était surtout une façon de les dire, parce qu'en effet, dans mon premier roman, il y avait quand même la question de l'exil ou du fait de changer de lieu, mais rien n'était dit. Et là, j'ai décidé de mettre des mots sur cette histoire et de dire qu'il s'agissait effectivement de Juifs tunisiens qui ont été chassés de leur pays dans les années 60. Et donc, c'est le pas que j'ai fait. Voilà.
Le livre est dédié à la mémoire de Bébert et Claudine, qui sont vos parents. On a bien compris que c'était de la littérature et que Mathilde n'était pas vous. Mais j'insiste, est-ce qu'il n'y a pas une idée de transmission, finalement, d'un judaïsme tunisien qu'on connaît peu aujourd'hui, notamment dans les nouvelles générations ?
Oui, vous avez raison. Ce livre est dédié à mes parents, donc c'est effectivement... ils sont transposés dans les personnages de Georges et Nina, qui ne sont pas tout à fait eux, mais il est dédié à mes parents, et j'aurais pu le dédier également à mes filles, qui sont très curieuses effectivement de cet univers qu'elles n'ont connu qu'en partie. Et je pense, oui, que c'est une façon de rendre hommage à cette pratique qui n'est pas, qui n'est pas très religieuse, qui est très ouverte, qui est très, pour moi, ce que j'ai connu, bon, un peu étouffante, mais en même temps très gaie et pas du tout fermée. D'ailleurs, bon, l'un des passages très importants pour moi hein, de ce livre, c'est le moment où je rappelle que ces Juifs se disent des Juifs arabes. Et c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre, a fortiori en ce moment, mais toujours. En fait, c'est une histoire qui est peu connue, mais c'est aussi une identité qui est très peu connue. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai mis aussi, enfin, il y a quelques mots en hébreu, vous n'allez pas encore citer, mais vous alliez le faire. Mais il y a aussi des mots en arabe. Bon, des petits mots qui rappellent la mémoire de cette communauté. Voilà.
Par rapport à votre méthode, à l'action d'écrire, vous avez quand même une double identité, peut-être plus une double casquette. Il y a l'universitaire, la professeure d'université qui étudie et analyse des romans. Et puis vous-même, vous êtes romancière. Est-ce que c'est une difficulté ou est-ce que c'est un atout d'avoir ces deux facettes?
Je dirais les deux à la fois pour ne pas trop m'engager. Ça a été une difficulté dans, comme je le disais tout à l'heure, dans le fait d'oser franchir ce pas et donc de non pas me comparer ou mesurer à des grands modèles, mais simplement de vouloir pratiquer l'écriture moi aussi. C'est un atout au sens, je pense qu'il faut d'abord commencer par oublier tout ce qu'on sait. Mais en même temps, c'est impossible, donc il faut être conscient. Enfin, moi, j'ai l'impression d'en être consciente qu'on réécrit, qu'on s'inscrit dans une tradition romanesque. On reprend des choses et on les combine différemment. Mais je dirais que je ne sais pas. Je pense que ça nourrit, bien sûr. C'est la lecture, pas tellement l'analyse. C'est la lecture qui a nourri ma pratique. Ça, c'est sûr.
Est-ce que vous avez écrit ce livre facilement? Est-ce qu'il s'est imposé au niveau de la trame, au niveau d'écriture, en peu de temps?
Alors, en peu de temps, vous savez, comme je suis professeure aussi, justement, je n'ai jamais écrit en peu de temps. Mm-hmm. Il s'est écrit en deux morceaux, je dirais. D'abord, donc, ce noyau central, hein, tout ce qui tourne autour de ce que j'ai appelé la vie de château, c'est-à-dire ce moment de la jeunesse de Mathilde où elle est complètement emportée dans l'histoire d'Adrienne et Laurent. Et l'autre morceau, enfin, tout ça, évidemment, se combinant au fur et à mesure, ça a été ce qui tournait autour, justement, du deuil et du rapport à la Tunisie. Et ensuite, j'ai choisi de combiner les choses par le personnage de Paul qui va faire le lien entre les deux fils narratifs. Et donc, je ne l'ai pas écrit facilement au sens où justement les parties les plus personnelles, si vous voulez, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas les plus faciles à écrire. Au contraire, il faut accepter de les laisser arriver. De ne pas non plus se laisser emporter uniquement dans l'autobiographique. Donc ça, oui, c'était pas forcément le plus facile.
Alors, vous venez de le rappeler, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées au-delà du dialogue des cultures entre le judaïsme arabe tunisien et puis la France. Il y a la mort, il y a le deuil, il y a celui d'Adrienne et celui de votre mère. Comment vous avez pensé l'articulation de ces deux disparitions?
Alors, je veux de la mère de l'héroïne, je
oui,
tiens,
la mère de l'héroïne.
Non, et des parents de l'héroïne, parce que c'est les parents. Et alors, c'est le lien que j'ai voulu créer, c'est-à-dire que, au fond, Mathilde, je m'en suis rendu compte un peu à la fin, en quittant sa famille, va se chercher une autre famille. En fait, elle cherche tout le temps une place. Elle cherche, et donc l'histoire d'Adrienne. Donc, alors, on va peut-être pas trop dire dans quelles circonstances elle disparaît, finalement la renvoie à ce culte des morts qui a été qui est, disons, propre à une certaine tradition juive, mais pas seulement. Et du coup le roman emboîte justement le souvenir, fait s'emboîter le moment du deuil des parents et la remontée vers la mémoire de cette disparition. Et le lien, c'était que justement, finalement, Mathilde, qui pense tourner le dos à tous ces souvenirs, va se réconcilier avec eux, pour le dire un peu simplement, par l'acceptation de cette présence des morts.
Alors, il y a une phrase biblique, hein, « Et tu choisiras la vie ». Et finalement, votre titre va au vivant. Finalement, c'est une sorte de message d'espérance et d'espoir que le deuil apporte ou tend vers la vie. Est-ce que c'est pas ça aussi un des messages que vous deviez faire passer ?
Exactement. Enfin, c'est-à-dire que, bon, le fait est que...
Est-ce que le titre s'est imposé facilement
Alors
pour
non,
vous ?
Le titre, non, c'est ouais. pas non plus... Enfin, il s'est imposé facilement, mais très tardivement. C'est-à-dire que j'avais presque terminé et c'était un manuscrit sans titre. Et tout à la fin m'est venu justement, parce que je parle de ces fêtes familiales, de ces bar mitzvahs, de ces mariages, etc. Donc ça apparaît au début et j'en reparle un petit peu à la fin. Et oui, m'est venue l'idée de parler de ce toast bien connu, mais dont je n'avais jamais comment vraiment pénétrer toute la profondeur, on peut dire. Et donc oui, les Chaim, ça veut dire « eau, vie » au pluriel, et je l'ai un peu transposé en « eau vivant », c'est-à-dire effectivement, non pas que le deuil doive être oublié, mais que les morts, tout simplement, ne sont pas des présences sombres et douloureuses, mais nous accompagnent, que ce soit les morts qu'on a connus, ou d'un point de vue plus littéraire aussi, vous voyez, les présences littéraires, justement, l'héritage, enfin. Et donc, oui, je me suis dit, alors, bon, évidemment, il y a beaucoup de titres de livres avec le mot vivant, et ça s'est trouvé comme ça, mais il m'a semblé que c'était important de le souligner, oui.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwarz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Karen Haddad qui nous parle de son nouveau roman « Au vivant » qui vient de paraître aux éditions Arléa. Il y a la mer, les étés, les paysages, de jolies descriptions qui sont faites dans ce livre. Et puis, on les associe parfois, pas uniquement à des décors réalistes, mais peut-être des symboles intérieurs. Est-ce que vous y avez pensé dans votre écriture ?
Alors, là encore, je n'y ai pas pensé sur le moment. Vous voulez dire, par exemple, l'opposition entre la mer
oui,
perdue
et puis
la campagne.
Oui, les différents états d'esprit aussi de l'héroïne qui vont peut-être d'intérieur fermé pour le deuil et puis finalement une nouvelle vie quand elle voit de jolis paysages qu'elle décrit ou simplement l'étendue de la mer.
Alors, je pense qu'il y a c'est dans tous les cas, disons, il y a beaucoup de paysages qui sont simplement, qui sont finalement remémorés. Hein, c'est-à-dire que, précisément, ce paysage, cette ville de Tibera, donc qui est une ville imaginaire, qui est celle de ses parents, où elle est née sans en avoir de souvenirs, c'est la mer, le soleil, ce cliché de l'Orient qu'on lui renvoie constamment. Et donc qu'elle ne peut qu'imaginer, tout comme elle ne peut qu'imaginer presque le décor du kibboutz, hein, où son père a passé quelques années fugitivement. Et à côté de ça, il y a le décor présent, hein, qui est le Paris, donc le Paris d'aujourd'hui, le Paris contemporain, et donc la campagne représentée par cette maison de famille en Bourgogne. Alors oui, ça correspond, disons, à des représentations différentes, parce qu'effectivement, Blancet, la neige, c'est la France, c'est la culture française, c'est la séduction, parce que c'est aussi une histoire d'amour pour la culture française, hein, qu'il y a dans cette trajectoire de la famille aussi bien. Et la mer de diamants, c'est ce qui a été perdu et qu'on ne peut retrouver que par la mémoire, justement, et par l'imagination.
Et finalement aussi un amour de ses racines orientales.
Oui, ouais. Mais qui, dans un premier temps, est traité, est méprisé par Mathilde. Non pas qu'elle ait honte, hein, je pense que ça se sent comme ça, mais plutôt parce que, alors là, c'est peut-être quelque chose d'assez personnel aussi, quand vous avez des origines, c'est-à-dire des origines différentes, on a tendance, enfin aujourd'hui, on a tendance à vous y réduire, à vous y assigner, Chose que je n'ai pas connue, enfin que j'ai moins connue moi dans ma jeunesse. Aujourd'hui, quand on rencontre quelqu'un, une des premières questions c'est tu viens d'où, tu es d'où, de quelle origine. Et j'ai voulu faire sentir ça, cet écart, justement à travers ce personnage de Paul qui est plus jeune que Mathilde et que ça intéresse beaucoup. Et au début, c'est agaçant parce que c'est une façon de vous enfermer. Si vous voulez, c'est un retour aux origines, au sens de les accepter et de comprendre toute l'importance de l'histoire de la famille, mais pas au sens où ce serait, revenir par exemple à la religion, etc. C'est pas du tout je pense que c'est l'histoire d'une libération, mais où on comprend que il faut y revenir en fait. Voilà.
Est-ce que vous pensez que certaines personnes d'origine judéo-tunisienne peuvent s'identifier à ce personnage? Parce que finalement, ce que vous racontez, c'est ce que les enfants des familles juives tunisiennes qui sont arrivées en France ont un peu vécu aussi.
Mais écoutez,
cet amour des amours par rapport aux racines et puis le fait d'être happé par cette culture française.
Je l'espère qu'ils puissent s'y identifier et je l'espère. Et j'espère qu'il n'y a pas que qui puisse s'identifier, parce que je dirais pour le moment, de lecteurs connus, de lecteurs et lectrices connus, ce sont plutôt des non-juifs ou des juifs d'autres origines. Mais j'ai été très, très contente d'entendre des amis me dire « Ah oui, c'est aussi mon histoire, alors pour telle autre raison, parce que... ils ont quitté leur province, leur campagne, parce qu'ils ont dû... assumer une différence devant leur famille, vous voyez, et j'aimerais qu'on s'y reconnaisse effectivement.
Oui. Une sorte de nostalgie de ce qu'on a quitté et puis ce vers quoi on revient comme des allers-retours.
C'est-à-dire que je pense qu'il y a toujours un moment où il faut, il y a des gens qui ne quittent pas, mais quand même, je pense que pour trouver sa voie, il y a un moment où il faut choisir, et dans le cas des exilés de manière générale, même si je dis que les personnages là ne se définissent pas comme des exilés, dans le cas où on a dû partir de cette façon, on a été chassé, on a été expulsé, on s'est exilé volontairement ou non, je pense qu'il y a un moment où il faut passer par-dessus ce déchirement pour tout simplement s'adapter et survivre. Après, on peut revenir.
Alors, il faut dire aussi que c'est un roman sur l'amour, la liberté d'une femme de choisir sa vie. Est-ce que c'est un roman féministe ?
Alors, ça me fait très plaisir que vous me posiez la question, parce qu'effectivement, je vous l'ai dit, les deux sont liés, mais j'aimerais qu'on ne le lise pas simplement comme une histoire des juifs tunisiens. Enfin, c'était encore une fois pas du tout mon objectif au départ. Et oui, est-ce que c'est un... Oui, je dirais oui au sens où c'est un personnage, effectivement, que j'ai voulu, un personnage de femme libre, qui finalement fait des choix qui sont parfois un peu difficiles à comprendre, qui justement va finir par les assumer. J'avais déjà créé un personnage différent dans sa trajectoire dans mon premier roman, et je pense que c'est un roman féministe au sens où justement il s'agit de refuser les assignations, l'appartenance, que ce soit à ce milieu ou à d'autres, en fait.
Quand vous avez mis le point final au livre, est-ce que vous étiez contente de ce que vous aviez écrit ?
Je crois que c'est difficile à dire. Surtout que il y a eu plusieurs fois le point final. Je suis souvent revenue. J'ai ajouté des choses. Je sais pas. C'est disons que certains. Je suis contente d'avoir réussi à dire certaines choses. Je pense que peut-être j'aurais aimé en dire plus. Mais il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Je ne sais pas, on verra, mais je suis contente quand les gens me disent qu'ils les touchent, effectivement, qu'ils l'ont lu, oui, d'une traite. Ça me fait plaisir, parce que j'avais peur que ce soit un petit peu trop, peut-être, personnel comme histoire, et le fait qu'on puisse s'identifier, oui, ça me plaît beaucoup.
C'est un roman... évidemment, et on l'a dit, hein, qui navigue entre le particulier et l'universitaire et l'universel, les questions identitaires, peut-être aussi un peu d'universitaire et d'autobiographie. Au niveau de la réception, il a paru il y a quelques semaines. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous en dit? Et à qui, selon vous, il s'adresse, ce livre?
Alors, j'ai eu deux types de réception pour le moment, c'est-à-dire le côté juif, on va dire, et le côté non-juif. Et je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui m'en revient, c'est que c'est émouvant et qu'on peut s'identifier. Et alors, effectivement, selon les... Mais ce n'est pas forcément en fonction du caractère identitaire ou non de la réception, mais effectivement, il y a des lecteurs et des lectrices qui ont été plus sensibles au fait que c'était d'abord une histoire d'amour, et d'autres qui ont été plus sensibles au fait que c'était d'abord un roman des origines. Et pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, mais c'est vrai que je suis très contente quand on évoque justement cette histoire, alors qui ne dure pas très longtemps dans le temps, mais qui est profondément marquante, puisque c'est de ça c'est ça qui va décider de la vie de Mathilde, cette histoire de jeunesse le fait qu'elle tombe amoureuse non seulement de ce personnage de Laurent, mais d'Adrienne et Laurent. Hein. Comme il y avait Georges et Nina, il y a Adrienne et Laurent, et c'est eux ensemble qui lui plaisent.
Je vais me permettre de vous poser une question plus personnelle. Oui. Dans le judaïsme, quand on perd un parent, eh bien, on a une année de deuil. Oui. Est-ce que finalement, ce livre et cette écriture de ce livre qui évoque aussi le deuil n'était pas une façon pour vous de leur faire un kaddish?
Oui, d'une certaine façon, surtout que j'avais perdu déjà mes parents quand mon premier roman est paru. Et oui, si vous voulez, enfin, c'est très beau ce que vous dites, mais oui, je pense, alors, en particulier pour le premier chapitre, qui là a été présent dès le début, hein, même quand j'avais pas prévu de raconter vraiment l'histoire de mes parents, parce que précisément, vous voyez, j'ai vécu beaucoup de Shiva, mais cette Shiva-là n'a jamais eu lieu, en fait, parce que j'ai perdu ma propre mère à un moment, au moment du Covid. Donc on ne pouvait pas organiser ça. Et donc, je l'ai en quelque sorte recréé à partir de mes souvenirs d'autres Shiva. Donc oui, bien sûr, c'est aussi, si vous voulez, une forme de réparation, puisque finalement, c'est aussi rendre hommage à leur vie, à leur histoire, à ce que je n'ai pas forcément toujours compris quand j'étais plus jeune. Vous savez, on est parfois cruel, encore une fois, lorsqu'il faut s'extirper de cet environnement qui est très chaleureux, mais qui peut être aussi très, très étouffant.
Une autre question liée à l'actualité. On sait que, en tout cas je sais par des amis, qu'il est difficile aujourd'hui, quand on participe à des salons du livre, quand on fait des signatures, de pouvoir évoquer un roman qui a une thématique liée au judaïsme. Est-ce que vous avez été confronté à ça? Est-ce que le fait de simplement parler du judaïsme tunisien dans votre livre a été une sorte de frein à la communication ou à la diffusion de votre ouvrage?
Je ne peux pas le dire, puisque oui. Enfin, j'ai pas du tout affronté de refus. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça peut dissuader certaines personnes de l'acheter. En tout cas, moi, je n'ai pas comment dire, je ne me suis pas censurée dans cette écriture. Mais en revanche, je pense que je fais sentir la censure, non pas par rapport à l'actualité, mais de manière générale, qui régit beaucoup la vie me semble-t-il, de beaucoup de juifs, peut-être beaucoup d'exilés, mais de ce désir d'effacement, de discrétion que j'évoque à propos des parents de Mathilde et donc qui fait que ils se mettent en retrait eux-mêmes. Et il y a un autre effet qui là est liée à l'histoire, effectivement, qui peut apparaître comme une forme de non pas d'autocensure, mais pour faire de faire sentir justement le poids de cette histoire, c'est le fait que j'appelle toujours Israël le pays interdit, parce que il a été interdit réellement à l'époque où la plupart des Juifs vivaient de Tunisie, vivaient encore en Tunisie, et parce que c'est un nom qu'il est difficile de prononcer sereinement sans être aussitôt disons pris à partie,
ou de l'écrire sereinement.
Alors de l'écrire, non, mais j'aurais pu, mais c'est un choix que j'ai fait volontairement. D'accord. Parce que je pense qu'on comprend très bien, mais ça me paraissait refléter ce poids de l'interdit, et puis parce que ça se lie dans le roman à la Tunisie qui devient aussi un pays interdit. En fait, il y a un moment où les personnages sont coupés de tous ces lieux, et je voulais que ça se fasse sentir de cette façon. Alors. Je pour vous répondre, je ne sais pas. J'en sais rien. Je pense qu'il y a autant de gens que le sujet peut justement attirer que d'autres, peut-être qui peuvent s'en éloigner. Mais c'est pas du tout. Ça n'est lié à l'actualité que dans la mesure où l'histoire de ces Juifs chassés de leur pays. Je voulais qu'on la connaisse, non pas pour revendiquer quoi que ce soit, mais comme un contrepoint, parce que ce ne sont pas des Français, ce ne sont pas des colons, c'était des gens qui étaient là depuis toujours et qui, pour certains, ont été tout simplement expulsés, qui ne sont pas partis nécessairement de leur plein gré. Et donc, oui, sans doute que c'est quelque chose qui ne serait peut-être pas venu sans le contexte actuel, je ne sais pas.
Il y a une question traditionnelle pour conclure cette émission, mais néanmoins difficile. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de lire votre livre, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Alors, je leur dirais ce qu'on disait peut-être un peu tout à l'heure, c'est-à-dire si vous avez éprouvé dans votre vie cette question du déchirement ou même simplement du tiraillement entre la fidélité à toutes sortes de liens, hein, parce que ça peut être aussi les liens amoureux, mais donc à la fidélité à ce qu'on a été et le désir de se libérer. Et je dirais aussi, oui, c'est... Je parlerai de l'histoire d'amour, c'est-à-dire de la façon dont on peut, là aussi, être tiraillé entre la fidélité à une histoire passée très forte. Bon, l'histoire de Paul, dont on a très peu parlé, mais qui est donc celui qui va finalement, il n'existe pas tellement, sinon pour provoquer la curiosité de réveiller la curiosité de Mathilde pour ses origines. Donc, si vous avez je sais pas, je mettrai en avant cette identification à une trajectoire de déchirement, mais aussi de réconciliation.
Merci beaucoup, Karen Hadda, d'avoir accepté de partager avec nous ce beau voyage littéraire au vivant, publié chez Arléa, un roman lumineux sur l'exil, la transmission, la mémoire, la fidélité au lien, mais aussi sur la force de l'amour et de la réconciliation. Un livre qui nous rappelle, à travers la voix de Mathilde et l'histoire de ses parents, que nos racines, si parfois elles pèsent, sont aussi ce qui nous relie aux vivants. L'Echaïm, merci beaucoup et à très bientôt.
Merci beaucoup Sandrine et peut-être à très bientôt.